Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En poursuivant notre lecture du livre « Trembler », un récit écrit par Catherine Laborde aux éditions Plomb, nous retrouvons non seulement la présentatrice météo de TF1 que nombre d'entre nous ont encore en mémoire, mais à travers le récit qu'elle a écrit, c'est l'écrivain qui nous parle de sa maladie, le Parkinson. Maladie dégénérative, la deuxième plus fréquente en France après Alzheimer. Cette maladie est très variée dans ses manifestations visibles, très difficile pour un patient et très différente d'une personne à une autre. D'où un avertissement aussi qu'elle donne au début du livre. Je vous le lis. Chers lecteurs, vous trouverez ici et là dans ce texte des mots qui n'existent pas ou qui reproduisent plusieurs fois la même lettre, voire la même syllabe. Des mots réels, exacts ou non, qui apparaissent de façon quasi intempestive dans ce récit. Ne vous étonnez pas. J'aurais pu les effacer à la relecture, mais j'ai au contraire tenu à conserver les traces des difficultés rencontrées par mon cerveau lorsqu'il s'agit de le faire travailler quand un intrus vient court-circuiter son fonctionnement. Voilà pourquoi certains mots sont indiqués avec un astérisque. Cette faiblesse de l'esprit, ces carences ou absences ou dysfonctionnements des neurones survenus lorsqu'on ne les attend pas, tous les parkinsoniens pourraient vous les décrire chacun à sa manière. Ils les rencontrent et les connaissent. Commençons notre lecture. Voix. Tout au long de ma vie professionnelle, je me suis servi de ma voix. Avant la météo, quand je disais de très beaux textes à Radio France en compagnie d'acteurs formidables que le passé n'a pas toujours engloutis, mais qu'on pourrait oublier parce qu'ils ne sont plus là ou parce qu'ils se sont retirés du métier et de leur art, devrais-je écrire. Je pense à Henri Virlogeux, à Nadia Barentin, Edwige Feuillère, Catherine Sellers, Suzanne Flon, à Jean Borély, Elisabeth Amaris et tant d'autres. Si rare pourtant. Parkinson n'a pas réussi à les chasser de ma mémoire. Et j'en suis heureuse. Je n'oublie pas non plus ceux qui travaillent encore. Ceux pour qui la vie, la joie de vivre est plus forte que la fatigue. Michel Bouquet, Judith Magre parmi tant d'autres. Jouer la comédie sur une scène de théâtre nourrit la force de vie. Éloigne Parkinson. Pourquoi pas? Allez, tout le monde en scène! Visage. Le temps de la maladie n'est pas celui de la littérature. Il m'arrive de souhaiter que la maladie évolue plus vite, pour mieux vous en rendre compte. En attendant que le pouvoir des mots fasse rendre gorge à Parkinson, on peut s'attarder sur les visages qu'on voit changer peu à peu. Désormais, comme le neurologue, je sais, à travers le masque des visages, reconnaître par qui. Contemple-les, mon âme, ils sont vraiment affreux. Ces vers de Baudelaire décrivent les aveugles. On pourrait les lire aussi pour Parkinson. Pareil aux mannequins, vaguement ridicules, terribles, singuliers comme les somnambules. Oui. Le masque des aveugles chez Baudelaire ressemble à celui des malades de Parkinson. Mais rappelez-vous le masque de Mohamed Ali Cassius Clay. L'immense boxeur était devenu une sorte d'enfant perdu qui découvrait un monde qu'il ne savait pas décrypter. Regard fixe, aucun mouvement de visage. Il semblait n'avoir aucune protection, aucune échappatoire. Ainsi sont les parkinsoniens. À la différence des aveugles de Baudelaire, ils sont démunis de tout quand seul le masque de la maladie a envahi leur visage. Regard hagard et fixe, bouche légèrement entrouverte et quelquefois un peu de bave, ça vous dégoûte ? Lui aussi, elle aussi. Les malades de Parkinson se cachent quand ils le peuvent et détestent qu'on les expose. Pour échapper à Parkinson, ou au moins à son masque, on pourrait porter un loup pour les périodes de carnaval, comme à Venise. Ami lecteur, ne sois pas, s'il te plaît, outré par ce langage innocent. Le sourire revient parfois de manière inattendue, surtout à Venise, et c'est beaucoup. Venise, lune de miel. Cette formule de lune de miel entre Parkinson et amour secret me conduit à vous, à Venise. Dans l'évolution de la maladie, elle est une formule employée par les scientifiques. De vrais amoureux, ces chercheurs, pour traduire cette phase de la maladie qui laisse le corps en repos. Elle dit le moment où s'atteint l'équilibre entre Parkinson et les médicaments. Cette période peut durer plusieurs années et varie d'un patient à l'autre. Mais plutôt que d'écrire ce temps de la maladie que mon corps n'a pas encore totalement vécu, je préfère que cette lune de miel m'entraîne avec toi, lecteur, à Venise. Nous y croiserons, qui sait, Frédéric Baudret ? Venise me sauve de mon enfer. J'y retrouve chaque fois l'odeur de pourriture, la même que celle des anciens canaux de Tarbes, désormais asséchés et dont l'odeur m'a poursuivi avec délectation pendant toute mon enfance. Cette exhalaison fétide, commune aux deux villes, me rappelle toujours les jours heureux que notre tante inventait pour nous. On allait voir les petits ânes à Bagnères. On mangeait de grands plats de flan au chocolat décorés de blancs d'œufs. On allait au bain public une fois par semaine. Le soir, on jetait les restes du repas dans le canal, dont l'eau restait pourtant transparente. On faisait du vélo au jardin Massé. Lambeaux de souvenirs, témoins des jours heureux. Au détour d'une ruelle, on découvrait les Pyrénées si lointaines, si proches, dont la magnificence nous isolait du monde et nous en protégeait. Pour mes sœurs et moi, les vacances chez Mita, à Tarbes, mariaient la liberté et les rires de celle qui nous aimait plus que tout. Mita a disparu. Les canaux de Tarbes ont été asséchés, mais heureusement, ceux de Venise sont toujours là. Dans le labyrinthe des ruelles, je savoure à chaque instant le bonheur de tous ceux qui traversent la ville ou qui y vivent. Moment de parfait équilibre. Venise est une lune de miel qui ne finit pas. Ces trois petits mots me sauvent du désespoir qui guette et toujours je retourne à Venise. On dit qu'elle s'enfonce peu à peu dans la vase qui l'a détruit. Ce déclin dans la lenteur me convient. Venise meurt lentement depuis qu'elle existe. Et ceux qui prédisent sa mort définitive auront disparu avant elle. Venise est en danger de mort aujourd'hui comme hier ou demain, conduisant à la fin toujours prochaine et toujours repoussée. Et je voudrais qu'elle me conduise ainsi, doucement, inexorablement, vers ma mort, dans ce temps de crépuscule. Je suis comme cette ville, son temps de destruction est le mien, elle continuera dans son éternité immanente. Mourir à Venise, comme il a été écrit, c'est rêver la mort, comme on rêve la vie, douce et éclatante. Chez Parkinson et les médecins, non seulement la lune de miel ne dure qu'un moment, comme dit la chanson, mais elle sous-entend aussi que le pire est devant nous. Ainsi s'évanouit-elle en laissant le malade seul face à ses angoisses chroniques. Allons, oublions parking, partons, loin des médecins, jouissant de cette lune de miel forcément trop courte. Alors, forcément, Venise. L'imagination m'entraîne à sa suite, dans les ruelles étroites, au-dessus des ponts, au coin d'un canal devant un tableau. Cette ville étrange m'a apporté tant de joie exaltée, tant de bonheur d'être là, à cet endroit-là, dans un présent qui s'étire sans fin comme un tableau de Canaletto. Oui, je traverse un moment béni. Je suis toujours dans ma lune de miel. Ma maladie a été détectée en 2014 et la lune de miel qui l'accompagne peut durer encore de longues années. Vous voyez, cher lecteur, je fais comme le corps médical. Je reste flou sur la durée d'une maladie chronique. Donc, je souffre peu de Parkinson jusqu'à présent, bien moins en tout cas que d'autres victimes avec lesquelles je compatis. Aujourd'hui, ma maladie se manifeste seulement par des endormissements impromptus liés à des fatigues incontrôlables, une vraie lenteur dans tous mes gestes et une façon de marcher en traînant les pieds qui bouleverse mon entourage. Dos. J'ai mal au dos. Combien de fois n'avez-vous pas entendu ou répété cette simple phrase qui, outre la douleur, témoigne de la lassitude, de la tristesse, de l'impuissance, du malaise qu'impose parfois le quotidien. Rassurez-vous, le mal de dos n'a en général rien à voir avec Parkinson. Sauf pour certains, peut-être, je ressens parfois à la hauteur des reins des sortes de fourmillements désagréables. Comme si les douleurs de mon enfance ressurgissaient dans ma vie d'aujourd'hui. Dans cette partie de mon corps se cache la douleur lancinante du mal de dos de la petite fille que j'étais. On dirait que cette évocation du passé m'accable. À présent, dès que je marche, mon dos se courbe comme pour me protéger d'une charge trop lourde. Et quand je m'assieds, la courbure s'accentue. Je porte le poids du monde sur les épaules. Larmes. Mais où est-elle, cette joie formidable, ressentie à la minute où l'on m'annonçait ma maladie? Où? Bonjour, monsieur Parkinson. Vous n'avez pas vu passer ma maladie? Elle est toujours avec vous? Je voudrais bien la saluer. Mes larmes, désormais, ne sont plus de joie. La joie s'en est allée. J'ai pensé que ma maladie me guiderait vers l'écriture. J'ai pensé qu'elle m'aiderait, au-delà de ma souffrance, à trouver ma liberté. J'ai pensé qu'elle ne me faisait pas peur, et que, si elle ne me faisait pas peur, cela voulait dire que je n'aurais plus jamais peur de rien ni de personne. Et j'ai pensé que ma liberté était au bout de ce chemin tortueux et escarpé. Aujourd'hui, tout est différent. Rien ne se passe comme je l'avais imaginé. La maladie entre en moi tous les jours d'une manière insidieuse, invisible, où la peur se glisse quand je l'ai crue disparue. Elle est devenue une sorcière familière, repoussante, dégoûtante. Je ne me laisserai pas faire. J'ai dans mon corps un ennemi que je fabrique moi-même, indifférent à tout ce qui n'est pas lui. Attention, je vous vois. Parkinson, confortablement installé dans ma tête, vous ne respectez rien. Chaque jour qui passe, je réalise combien votre travail de sape me broie. J'ai cru ce que vous me disiez, que ma maladie n'était pas mortelle, que personne ne la remarquerait. J'ai cru que ça voulait dire que je n'étais pas malade pour de vrai. On m'a dit aussi qu'on ne guérissait pas de Parkinson, et j'ai cru que ça voulait pire. Astérisque. J'ai cru que ça voulait pire, qu'il disparaissait bientôt, qu'il abandonnerait la partie à force de traitement. Avec espoir, j'ai aussi attendu que les chercheurs le chassent de ma tête. Mais hélas, les progrès de la science n'ont pas le même rythme ni le même temps que ceux du malade. Ça vous fait sourire? Par qui? Vous vous croyez si puissant, si fort? Profitez-en. Votre omnipotence ne durera pas. Caïn, les scientifiques avancent. Et je vous interdis de penser qu'il sera trop tard pour moi. J'en tremble de colère, et mieux vaut la colère que la peur. Je sais me battre. Ne riez pas. J'apprendrai. J'apprends déjà. Mon arme, c'est ce livre.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Joli pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Voilà 4 ans que je suis prise par Kenson. 4 ans que je tente de te faire ressentir, comprendre qui est Parkinson, cher lecteur. Aujourd'hui, et après 4 années de traitement entre les mains du merveilleux JFC, voilà où j'en suis. Mes mains tremblent de manière irrégulière et difficile à prévoir. Plutôt sous le coup d'une émotion, leur rythme s'accélère de mois en mois. Outre la main droite, désormais, la main gauche aussi tremble un peu. Même manifestation pour les jambes, surtout quand je suis assise. Grosse fatigue en général le matin, entre 10h et midi. Je ne peux que me coucher et attendre que l'énergie revienne. Parfois, je me rendors. Est-ce le Modopar qui crée cette somnolence ou Parkinson lui-même? J'hésite. J'opterai plutôt pour le médicament. Je prends une gélule jaune et verte 3 fois par jour et sur la notice, il est écrit qu'il y a un risque de somnolence. Outre le matin, il m'arrive aussi de dormir l'après-midi pendant 2 heures. Je me réveille dans un état pitoyable, éjecté d'un réveil poisseux, sans repère et en sueur. Sur les conseils de mon entourage, mes aidants, je me suis procuré un semainier. Je n'ai pas su m'en servir. J'ai essayé avec un autre, d'une structure un peu différente. Et là, je me suis retrouvée à l'hôpital. J'avais surestimé les doses. Je m'habille avec quelques difficultés. Il y a toujours une manche à l'envers, un bouton sans boutonnière, un décolleté dans le dos. Ah, j'essaie de ne pas m'énerver. Je bouge beaucoup. Je ne peux pas rester assise longtemps au même endroit, surtout au moment d'aller me coucher. J'ai quelquefois le soir ou la nuit les jambes qui galopent. J'ai du mal à m'exprimer par moment. Je confonds les trajets, multiplie les tours et les détours. Récemment, j'étais persuadée que Brest était tout près de Paris. Il y a peu, j'ai aussi prétendu, avec une belle assurance, devant des amis, que le bassin d'Arcachon, où il se rendait, était lui aussi proche de la capitale. J'ai vu dans leurs yeux ébahis qu'ils s'interrogeaient. Voulais-je faire une blague nulle ou quelque chose ne tournait-il pas rond dans ma tête? Pour ôter la moindre suspicion quant à mon état mental, j'ai tenté de faire croire à de l'humour raté. Je n'avais pas tout à fait repris mes repères ni retrouvé mes esprits. Le regard de R s'est longtemps attardé sur moi, comme s'il avait deviné les effets de Parkinson. Écrire ce livre maintient cette distance entre Parkinson et moi. Elle me trouble et s'enfle ou diminue selon les jours et les nuits. Cette distance qu'établit la littérature peut nous sauver. Qu'en pensez-vous, vous qui me lisez, là, en ce moment? Foutaise? La littérature peut nous sauver? Seule la littérature? Peut-être. Et sauver quoi de quoi? De cette menace de la maladie? L'accepter sans peur? Oui, peut-être. La littérature peut sauver de la peur et du malheur. À force de l'écrire, j'y croirai moi aussi, peut-être. Ce sont plutôt mes gaffes qui me protègent. Je suis devenue clown sans le faire exprès. L'autre jour à table, j'ai versé de l'huile d'olive dans mon verre. J'ai vu dans les regards autour de moi qu'on se demandait s'il fallait en rire ou en pleurer. J'ai choisi le rire et j'ai entendu autour de moi les gloussements qui précèdent le fou rire. Je fais rire mon entourage, et c'est déjà ça. Mes proches ne sont pas cyniques ni égoïstes, mais il faut parfois partir d'un grand fou rire pour échapper à l'étouffant parquet. Pour l'Alzheimer de ma maman, les fous rires nous ont souvent sauvés du chagrin. Là où j'en suis, je ne sais pas. Je tourne en rond, au sens propre, comme un chat qui joue à attraper sa queue. Mais je ne joue pas. Ce Parkinson me paraît si imprécis, si bizarre. C'est quoi cette maladie qui vient de l'intérieur de moi et qui me fait souffrir de manière inexorable, sans me tuer? Le supplice est immense. Et dans cette ignorance, j'imagine parfois le pire. Mon cerveau, inéluctablement, se transforme comme dans le film de David Lynch, Eraserhead. Le plus difficile dans l'élaboration de ce livre, c'est de rendre cohérent ce qui est écrit. Cette cohérence est difficile à trouver, mais pour vous, chers lecteurs, si je ne veux pas vous perdre, elle est indispensable. Il faut que j'arrive à la faire surgir, surtout si vous-même êtes victime de ce sacré Paddington, vous ou l'un des vôtres. C'est comme cela que j'arriverai à vous aider. Alors, poursuivons le voyage. Regard. Avez-vous déjà croisé le regard d'un malade d'Alzheimer? Avez-vous saisi ces courts moments de panique où son œil tente d'accrocher un objet familier, une personne qu'il s'efforce de reconnaître? Mais justement, pendant quelques instants, il ne sait même pas qui il est. D'où cette panique, non pas de ne pas savoir où il est, qui il est, mais la peur que les autres, tous les autres, se rendent compte qu'il est totalement perdu dans un monde étranger où il ne discerne rien ni personne. Alors, il donne le change. J'ai connu une vieille dame qui, pour cacher les trous de mémoire provoqués par Alzheimer, répondait à une question par une autre question. La ruse ne marchait pas toujours, mais la dame conservait toute son élégance et sa sociabilité. Eh bien, j'ai moi aussi, je l'ai dit, croisé des regards surpris devant une de mes affirmations totalement erronées. Ce symptôme est rarement celui de Parkinson, mais plus fréquent dans la démence à corde Lewy ou la maladie d'Alzheimer. Repenser à ce masque me met de méchante humeur. Je sens le frôlement de l'effroi se rapprocher de moi. J'ai peur. Et voilà que la sonnette de l'entrée retentit. Je vais ouvrir de mauvaise grâce. Je n'attends personne. Il est trop tôt. Comme tous les matins, je veux me mettre à écrire. Et comme tous les matins, ce n'est pas facile. À ce moment de la matinée, je suis même sur le point d'écrire à mon éditeur pour lui dire que j'abandonne, que je ne suis pas capable de rédiger des confessions ni de trouver la bonne distance entre émotion et froideur du récit. La présence de Montaigne et le désir de relever le défi, malgré sa protection, encore, et quelle protection, n'y change rien. Quelles histoires je me raconte sur Montaigne? Suis-je même capable de lire une ligne des essais? Et quels lecteurs peuvent encore s'intéresser à lui? Je n'écris que pour me faire plaisir, et aujourd'hui, justement, je ne prends plus de plaisir, alors j'arrête. Bref, je reprends ma liberté et renverrai à l'éditeur mon contrat non signé. J'en étais là de mes doutes quand l'interphone a sonné. une voix d'homme jeune m'a dit un nom. J'ai répondu par « deuxième étage ». J'ai pensé que T dormait encore, mais qu'il ne pouvait rien m'arriver, puisqu'il était là. Déjà, l'homme frappait à la porte. Il avait fait vite. J'allais lui ouvrir et tout de suite, j'ai eu honte de ma tenue. Le cheveu en bataille, les traits encore gonflés de la nuit, des chaussettes d'homme pour chaussons et un petit pantalon grotesque, blanc et beige, trop court, trop grand. À mon regard interrogateur, il répond qu'il est le chauffagiste et qu'il vient nettoyer la chaudière. Je le fais entrer et je n'aime pas son petit sourire familier. Comme tous les gamins de sa génération, il a une fine barbe noire et porte des lunettes foncées. Il n'a l'air ni d'un plombier ni d'un étudiant. Il a de très beaux yeux gris-bleus. Et tout d'un coup, je reconnais ses yeux. Le jeune homme qui m'a déposé il y a 4 ans devant l'immeuble de mon neurologue, c'est lui. C'est bien lui. Lui, la dernière personne que j'ai rencontrée avant que Parkinson me rappelle à son bon souvenir. Ce jour-là, ma vie est devenue autre et il a été le seul témoin de cet ultime instant sans Parkinson. Étais-je plus heureuse avant, plus forte? Je ne sais pas répondre. Mais je suis bouleversée de le retrouver comme un neveu oublié ou un cousin disparu. Je parle à voix basse. Je ne voudrais pas que T se réveille. J'ai envie d'un moment d'intimité avec ce garçon. Je me rappelle qu'il allait partir s'installer à Nice avec son amoureuse. Alors, pourquoi est-il à Paris? Finalement, ils ont préféré remonter dans la capitale. À Nice, il ne connaissait personne et la vie était plus chère. Et toutes ces plages privatisées, il ne se sentait pas bien. Il se serait sans doute habitué parce que c'est vrai, la ville, la baie des Anges, la mer, le soleil, on en avait très envie quand même. Et puis, Noélie est tombée enceinte et on est remonté à Paris. Noélie, c'est ma femme. J'avais compris. Je m'exclame. « Vous avez un enfant ?»« Deux » sourit-il. « Vous voulez voir leurs photos ?»« Des jumeaux, de magnifiques jumeaux. » Il rit de bonheur en les regardant. « C'est du boulot, vous savez. Mais on est bien tous les quatre. » Vite, il range les photos et se met au travail, à l'autre bout de l'appartement. « Et si je lui montrais une photo de Parkiki, que dirait-il »« Rien. » Il n'a jamais vu Prakiki, il ne saurait pas le reconnaître. Il ne voit pas mes mains trembler. Je sais comment les cacher. Il est le dernier humain avant l'arrivée de Parkinson et il ne le sait pas. Il doit me trouver vieillie? Un peu, beaucoup. La vie après lui n'a plus été la même. Il ne le saura jamais. Il a fini. Il va partir. On hésite à s'embrasser. On rit un peu. Les yeux bleus sont redevenus gris. Dans ce chapitre sur le regard, je voudrais revenir sur une question que me pose le neurologue très souvent. Est-ce que j'ai des hallucinations? Et selon ma réponse, il établit une nouvelle ordonnance. L'hallucination doit être éliminée. Elle est le symptôme d'un processus dégénératif du cerveau. Je me souviens d'une exposition Picasso qui rassemblait toutes ses œuvres ayant appartenu à Dora Maar. Bien sûr, il y avait des tableaux, des sculptures, mais aussi des objets du quotidien transformés par la grâce de l'artiste en autant d'œuvres d'art. Tout était prétexte à peinture. Une poignée de porte, un coquillage, une boîte d'allumettes, un caillou, une nappe en papier déchirée. On avait l'impression que tout ce qui était tombé sous ses yeux se changeait aussitôt en oiseau, en taureau, en déclaration d'amour. Chez bon nombre d'artistes, le processus est le même. Un regard suffit pour transformer les objets du quotidien en poissons ou en cailloux. J'imagine que Picasso voit l'objet transformé dans sa tête avant de le réaliser et de le transformer. L'art est hallucinatoire et dans la construction et dans l'œil de celui qui regarde. Alors, pourquoi faudrait-il guérir de ses visions? Ne vaudrait-il pas mieux développer l'art en nous? Que dirait Antonin Artaud ou Henri Michaux? L'amour ne nourrit-il pas ses hallucinations comme le prouvent tous ces objets transformés par lui? Pablo pour elle, Dora en autant de serments d'amour? Et si soigner mon cerveau, c'est-à-dire le priver d'hallucinations, m'éloigner à tout jamais du désir d'écrire et de la vibration amoureuse? Plus d'hallucinations, plus d'amour?
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Je lis pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Enfance. Je danse, danse, danse. Attention, petite fille, petite folle, c'est la danse de Saint-Guy. Aujourd'hui, je l'ai dans tout le corps. Saint-Guy est devenu Parkinson. Le médecin anglais danse un tango infernal avec Guy. Oui, on dit que le tango réduit les symptômes de Parkinson. Tout c'est on dit. Je préfère la danse, je l'ai dans tout le corps. Et je suis petite, toute petite. Je suis du côté des doux, des exclus, des idiots. Je danse quand les autres travaillent ou pleurent. Je danse et je ne fais pas exprès. C'est pas ma faute, je danse. Folle, petite folle. C'est la danse des vieux, la danse de Précassonne. Maladie de vieux? Mais depuis quand ai-je cette maladie? J'ai toujours aimé danser. Alors, à quel moment de ma vie mon cerveau commence-t-il à divaguer? Et pourquoi? Je suis en 10e. Je suis la plus petite de la classe et la plus jeune. Ma sœur joue avec les grandes. Elle ne me voit même pas. Je suis d'un tempérament fragile. Je fais la sieste après le déjeuner. Je ne retourne pas à l'école l'après-midi. Mes sœurs sont jalouses. Mais elles ne sont pas malades. Moi, si. Et maman, elle est inquiète. Je sais bien que je suis lente dans mes gestes. Je suis toujours à la traîne pour marcher, m'habiller, manger, sauter à la corde, courir les bras écartés. On croit que je le fais exprès pour me faire câliner. Mais non, je suis malade. Maman est la seule à comprendre. Je reste au lit toute la journée quand j'ai mal au dos. Et j'ai tout le temps mal au dos, aux reins exactement. Le docteur vient quelquefois, mais il ne trouve rien. Il me regarde d'un air sérieux comme si j'avais fait une bêtise. Je n'ai pas fait de bêtise. Je suis malade, c'est tout, je le sais, et maman aussi. En faisant appel à mes souvenirs, je me rends compte que j'ai vécu une partie de mon enfance comme je vis aujourd'hui. Je prends brutalement conscience que ma vie actuelle est la même que celle que j'ai vécue les 10 premières années de ma vie. Parkinson a remplacé mon mal aux reins. Je suis plongée dans les souvenirs de mes pseudo-maladies infantiles qui désespéraient ma mère, intriguaient les médecins et me comblait de bonheur. Je l'avais pour moi, toute seule, tant son inquiétude sur ma santé était grande. Aujourd'hui, sous l'emprise de Parkinson, je me retrouve pareille à cette petite fille à peine malade qui cherche dans le regard de sa mère l'inquiétude folle et l'amour infini. Déjà, je souffrais d'une maladie qu'on ne savait pas guérir, ni même nommer. Fatiguée, chancelante, ralentie, craintive, mal assurée, solitaire, silencieuse, voilà le tableau d'un début de Parkinson. Voilà le portrait de la petite fille que j'ai été. Ainsi, je suis renvoyée à mon enfance, où s'entremêlent dans mes souvenirs et mes rêves nocturnes, amour de ma mère et maladie. Ma mère a disparu dans les fracas d'une maladie chronique qu'on dit inguérissable. Et moi, je suis toute seule. Fatiguée, chancelante, ralentie, craintive, mal assurée, solitaire, silencieuse, voilà le tableau d'un début de Parkinson. Voilà le portrait de la petite fille que j'ai été. Mes tremblements me renvoie à mon enfance souffreteuse. Ma mémoire est fragile, les souvenirs imprécis ou douloureux. La danse me sauve, quelquefois. Mémoire. Je devrais interroger ma mémoire, lui consacrer un chapitre danse, j'y renonce. Tout le livre dit, raconte, témoigne de la perte de mémoire, plus ou moins selon les anecdotes. En voici encore une, seulement une. Ma mémoire reste fragile. J'écris au salon sur mon ordi. À la cuisine, il prépare du thé pour lui et pour moi, un thé délicieux qu'il va acheter à l'autre bout de la ville. Il entre au salon avec un petit plateau sur lequel il a posé deux bols et la théière. Je dis « Il manque un bol ?»« Thé ?» ne répond pas. J'insiste « Il manque un bol ?» Thé ne répond toujours pas et remplit délicatement les deux bols. Je m'agace de son silence. J'insiste. Il manque bel et bien un bol, puisqu'on est trois. « Ah oui ? Et qui est le troisième ? » demande-t-il, flegmatique. L'évidence me saute aux yeux. Nous sommes deux ici, dans la pièce. Nous deux seulement, partageons une tasse de thé. Dans l'atmosphère tranquille de ce samedi après-midi, passé au coin du feu, ma confusion nous fait rire tous les deux. Mais où est la déficience? Qui la provoque? Parkinson ou le corps de Lévy? Les deux? Corps de Lévy plus Parkinson? Double peine, quoi. J'ai compris. Le corps de Lévy s'ajoute au Parkinson qu'il n'efface pas. Tournez, tournez, petit poisson, la fête n'est pas finie. Comprenez-vous pourquoi ceux qui sont atteints de Parkinson prennent peu à peu l'habitude de se taire même devant leurs amis? Il faut cacher le handicap à tout prix pour garder sa place dans la société, dans le travail, en famille même. Humérus, autrement dit l'os du bras. Oui, lui aussi joue un rôle dans le duo entre mon corps et moi. À ma première visite à son cabinet, le neurologue m'a demandé de marcher de long en large dans son bureau. Il m'a fait remarquer que le bras gauche restait ballant pendant la marche, contrairement à l'autre bras. Cette inertie d'un bras semblait indiquer la possibilité d'une trace de Parkinson. D'autres exercices, comme écrire ou marcher sur une seule latte du plancher ou tenir en équilibre sur un pied, tout cela l'amena à poser le diagnostic. J'ai remarqué depuis que le bras gauche se tordait un peu vers l'extérieur, vers l'intérieur, comme si ma main au contact du bras se tordait en s'atrophiant. Le bras se met aussi à trembler comme s'il suivait le parcours de la main. J'ai noté que le tremblement allait du bras droit vers le bras gauche en passant par les mains et glissait peu à peu vers les cuisses, les jambes et les pieds. J'arrive encore à maîtriser les tremblements de ses membres et à leur intimer le calme comme je le faisais pour un animal désobéissant. Mais combien de temps y parviendrai-je? Enfin, le sommeil vient mettre de l'ordre dans tout cela. On ne tremble pas quand on dort. Fémur. Poursuivons la balade entre chair et squelette. Je reviens à l'intérêt que je porte à cette partie de mon corps, les cuisses. Elles ont leur place dans le parcours tremblé de Parkinson. Je peux, je crois, les soumettre à mes intentions grâce à un engin qui a envahi notre salon, pourtant de bonne taille, bien avant que Parkinson fasse irruption dans ma vie et de manière si traîtresse. Il s'agit du vélo d'appartement. Je sais qu'il y a encore mieux que cet engin à pédales. Je pense au pédalier aquatique. Mais franchement, il n'y a pas de place pour un aquarium à taille humaine dans les appartements parisiens. Et je déteste aller dans les salles où on se retrouve à plusieurs pour modeler autant qu'on peut, on ne sait trop quoi. Je rêve d'un monde où la pratique du sport serait mal vue et interdite. J'y serais tant à mon aise. Comme Churchill, à qui l'on demandait d'où lui venait toute cette énergie et qui répondait « No sport ». Moi, je rumine sur mes pédales et compte combien de minutes me séparent de l'instant où je vais pouvoir arrêter. Dans la fin de notre lecture du jour, nous avons continué à découvrir différentes évocations de la maladie de l'auteur, avec des thèmes comme dos, regard, mémoire, humérus, fémur. Et nous poursuivrons dans notre prochaine lecture par hanche, prothèse de hanche. Amis auditeurs, n'oubliez pas, toutes nos émissions, je lis pour vous. Elles sont diffusées en direct, Radio Alliance Plus 103.2, FM et DA+, mardi et mercredi à 21h. Elles sont en rediffusion les lundis et mardis à 6h et l'ensemble des livres sont toujours disponibles sur le site de la radio à travers nos podcasts. À bientôt pour la suite de notre livre.